Bonjour et merci d'être présent. Alors, on le sait, hein, c'est toujours difficile de présenter sur un rendez-vous de 50 minutes un ou une auteure que vous découvrez au niveau du festival, que vous ne connaissez pas encore beaucoup, et en particulier comme Sofia Samatar qui a écrit, en tout cas en France, qui a été publié avec un premier roman. Mais pour nous, c'est important, pour ne pas dire indispensable, parce que on a vraiment envie, même si c'est pour un public au départ plus restreint, ce qui ne sera pas le cas dans les années à venir, parce que je peux vous dire qu'en attendant les prochains romans, nous réinviterons Sofia Samatar si les romans sont, comme nous l'imaginons bien, au même niveau que le premier. Nous allons donc discuter avec elle, lire des extraits et voir en quelque sorte tout l'intérêt de son œuvre et pourquoi ce roman, publié dans une petite maison d'édition belge, a-t-il obtenu le prix, le World Fantasy Award, qui est quand même le premier prix de fantasy au monde. Pour un premier roman, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Donc, le mieux, c'est toujours d'entrer dans les textes. Et c'est ce que je vais faire. Je vais vous proposer simplement le début, chapitre premier, Une enfance à Thiom. C'est la première page d'un étranger en Hollande. Lorsque j'étais étranger en Hollande, je ne connaissais rien des splendeurs de ses côtes, ni de Bain, la cité-port, dont les lumières et les couleurs se déversent dans l'océan telle une cascade de roses. Je ne connaissais pas l'immensité du marché aux épices de Bain, dont les effluves capiteuses rendent fous les marchands. Je n'avais jamais vu se lever les brumes matinales à la surface de la verte Ilun, chantée par les poètes. Je n'avais jamais vu de femme porter des joyaux dans ses cheveux ou contempler les éclats cuivrés des dômes, ni ne m'était tenu sur les plages mélancoliques du sud, tandis que le vent soufflait sa tristesse de la mer. Au plus profond du Fayalest, le pays des vins, votre cœur peut s'arrêter de battre face à la pureté de la lumière qui y règne. Il s'agit de la lumière que les natifs de l'endroit appellent le souffle des anges, et on prétend qu'elle peut guérir les maladies cardiaques et les poumons fragiles. Plus loin encore se trouve Ballinfeil, où, durant les mois d'hiver, les gens portent des capes en fourrure d'écureuil blanc, et qui, durant les mois d'été, alors que la terre est tapissée de fleurs d'amandier, est le séjour de la déesse Amour. Mais de tout cela, je ne connaissais rien. Je ne connaissais que l'île où ma mère huilait rapidement ses cheveux à la lueur d'une chandelle et me terrifiait avec ses histoires du fantôme sans foi, dont les sandales claquaient sur le sol à cause de ses pieds placés à l'envers. Je m'appelle Jewick. Je viens du bleu et brumeux village de Thiom, sur la côte ouest de Tinimavet, dans l'archipel du Té. Voilà, première page qui pose immédiatement le personnage qu'on va suivre tout au long de ce roman. Et ce personnage, en quelque sorte, raconte son histoire, raconte sa rencontre avec le pays de Londres. Et ce personnage, d'ailleurs la couverture nous l'a déjà indiqué, est un étranger. Et c'est évidemment son regard d'étranger, parfois ses difficultés d'étranger, auxquels on va être confronté. Vous avez senti dans cette première page, je pense, comme moi, quand j'ai ouvert le livre, l'auteur prend du temps. L'auteur pose son personnage. L'auteur nous donne envie de découvrir Hollande. Si ce n'était pas un livre de fantasy, mais un récit de voyage, on aurait l'impression d'entrer réellement dans la ville de Bain et de découvrir toutes les richesses de Londres. On verra après qu'il n'y a pas que des richesses, il y a aussi des difficultés. Et c'est donc le récit postérieur du personnage qui revient en arrière sur sa vie et ses découvertes. Et c'est aussi, pour nous lecteurs, la découverte de Londres. La première question que je voudrais poser à Sofia Samatar, c'est la mode actuelle dans le domaine de la fantaisie est plutôt au roman d'action, au roman rapide, et au roman qui ouvre généralement par une scène d'exposition, une media res, comme on dit, c'est-à-dire au milieu des choses, directement. Et vous faites exactement ce que tous les éditeurs disent qu'il ne faut pas faire aujourd'hui avec le lectorat d'aujourd'hui. Vous rentrez doucement dans l'univers que vous créez. C'est évidemment un choix contre-courant. On se réjouit de voir qu'il a quand même produit le meilleur prix de fantasy aux États-Unis. Il y a aussi des bons lecteurs aux États-Unis. Mais pourquoi avez-vous pris ce risque? Pourquoi avez-vous fait ce choix, Sofia Samatar?
So, So when I set out to write this novel, I wrote it out of a love of the fantasy genre. And I wanted to put in my novel everything that I love about the genre and to leave out everything that I don't care about in the genre. So I wrote a fantasy novel in which there are the things I love, such as the idea of travel, and you find this in many fantasies, a kind of epic journey. The idea of discovery of different peoples, different cultures, and different ways of thinking. And this was the most important thing for me. So it's a fantasy without many typical things from fantasy. It doesn't have dragons. It doesn't have a war. Because those are the things that don't interest me as much.
Alors en fait, j'ai écrit ce roman parce que j'adore la fantasy. C'est vraiment un genre qui me plaît beaucoup. Et j'ai voulu mettre dedans tout ce que j'aimais dans la fantasy. Et j'en ai volontairement écarté tout ce que je n'aimais pas dans la fantasy. Et donc, une des choses qui me plaît le plus, c'est l'idée du voyage que l'on retrouve dans de nombreux romans de fantasy, avec toute cette idée de découverte, de peuple, de culture, de mode de pensée. Et évidemment, j'ai écarté ce que moi, personnellement, je n'aimais pas forcément. Et donc, mon roman est un roman de fantasy sans dragon, sans guerre, parce que ce sont des choses qui ne m'attirent pas particulièrement et je n'ai pas souhaité les mettre dedans.
Definitely also it was a risk to do this because it's not typical for a fantasy novel. But for me, I really believe that fantasy is a huge mode of expression. It has vast possibilities, and there's no reason for people to kind of have a routine where they all, you know, write fantasy in a very similar way. This is a wonderful genre which can express and can include every kind of writing that there is.
Alors, je savais en même temps que en écrivant ce que j'écrivais, donc cette fantasy, je prenais un risque, puisque, évidemment, je produisais un roman qui n'était pas typique. Mais finalement, je me dis que la fantasy, c'est un tel moyen d'expression, c'est quelque chose de tellement large, qu'après tout, pourquoi s'enfermer dans des routines ? Il n'y a pas de raison, finalement, de se créer des modèles et de se créer des barrières. Et je pense que c'est un genre qui est assez large pour pouvoir permettre d'exprimer toutes sortes de choses que l'auteur a envie d'y mettre.
Un critique français, Nicolas Winter, que je salue pour son papier, a présenté son livre à vos lecteurs, Sophia Samata, dans la revue Bifrost. Et je vais demander évidemment à notre traductrice de vous lire ces quelques lignes, de vous les traduire. Il a dit à propos de votre ouvrage, cette façon si particulière de concevoir l'exploration d'un monde en rebutera plus d'un, sans doute, de même que la lenteur évidente de l'histoire. Mais ce serait nier l'effet recherché par l'auteur, à savoir imprégner lentement le lecteur d'une ambiance feutrée magique et en définitive infiniment romantique. Le papier qui pouvait paraître critique est en fait une véritable déclaration d'amour à l'auteur et c'est un papier qui dit qu'il s'agit aussi, au-delà des archétypes, d'un flamboyant récit d'amour aux multiples facettes. Ce que je trouve une très belle définition parce que ce n'est pas ce qui apparaît le plus vite dans votre roman. Est-ce que finalement, on parle de destin, celui d'un personnage, on parle de nation, sa nation d'origine, et puis au Londres, le monde qu'il va découvrir. Est-ce que justement, la question qui se pose, ce n'est pas celle de la rencontre avec l'autre quand vous allez dans un pays étranger et que vous n'en connaissez pas les règles ? Est-ce que cette vision de la rencontre d'un personnage avec un autre pays que le sien. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est issu de votre biographie, d'après ce que j'ai vu?
Yes, I'm very alien in many ways. When I wrote the novel, I was really a stranger because I was living in a foreign country. I was living in South Sudan where I was teaching English. But I'm also a person who, because I have mixed ancestry, there's always a way in which I feel often strange or maybe a bit alienated, even in the United States, even in my own country. So as a person with an American mother and a Somali father, I grew up kind of feeling that I was on the edge of my own culture, of American culture. So I would say I have the experience of strangeness both when I travel and at home. And ultimately, the character Jevik in the novel experiences this also, that through his travels, he's a stranger in Alondria, but he also, in a sense, is a stranger at home.
Alors effectivement, je suis moi-même quelqu'un de très très étranger à de multiples points de vue, puisque déjà j'ai passé du temps au Sud-Soudan où j'enseignais l'anglais et où j'ai expérimenté le fait d'être étrangère, mais je suis aussi quelque part à travers mes origines variées. Quelqu'un qui est un petit peu étranger dans son propre pays, puisque j'ai une mère américaine et un père somalien, et je me trouve un petit peu au bord de la culture américaine, avec finalement une expérience de ce sentiment d'être étranger, à la fois quand j'ai voyagé, mais également chez moi. Et c'est pourquoi, finalement, Jevik, il va ressentir un petit peu aussi les mêmes choses, puisque lorsqu'il voyage en Hollande, bien évidemment, il est étranger dans un pays qu'il ne connaît pas, mais il a aussi parfois ce sentiment d'être étranger dans son propre pays.
Actually, I had an experience recently when I was invited to Épinal. It was at the time when everybody was talking about the travel ban in the United States and the countries that would be banned from entering the U.S. And one of the countries was Somalia. And there were some questions about how does this affect citizens? I mean, yes, it's for Somalis, but what about Somali Americans, people with Somali names? Are we going to have problems? And I remember wondering, like, wow, how big will this get? And you know, will I go to Épinal? Was something that I was wondering when I was first invited.
Alors, cette expérience aussi du fait de se sentir étranger, je l'ai aussi éprouvée quand on m'a invité à Épinal, puisque, en fait, j'ai reçu l'invitation à un moment très particulier aux États-Unis, puisque, en ce moment, vous savez qu'aux États-Unis, il y a des mesures qui sont en train d'être mises en place autour des voyages à l'étranger et surtout de l'arrivée d'étrangers aux États-Unis avec certains pays qui sont sur une liste noire, et notamment la Somalie. Était dans cette liste noire d'interdiction d'accès au territoire américain. Et la question, du coup, s'est posée de savoir, oui, mais qu'est-ce qu'il en est des ressortissants américains qui ont des origines d'un des pays dans cette liste noire. Et donc, la question s'est posée pour moi en disant, ben voilà, mais jusqu'où cette chose-là va aller? Est-ce que moi, finalement, en tant que ressortissante américaine, mais avec des origines somaliennes, est-ce que si je pars, je vais pouvoir revenir? Des questions se sont posées et j'ai eu cette réflexion-là au moment où j'ai reçu l'invitation et il a fallu réfléchir.
Exil qu'on n'a pas choisi, déjà quand on l'a choisi, ce n'est pas facile. Alors on imagine bien la situation, mais on en plaisante parce que ça nous semble abstrait. Mais en réalité, le problème que souligne Sophia Samatar est bien réel, puisque des gens qui travaillaient pour des grandes entreprises américaines ont été bloqués et n'ont pas pu partir, ont dû passer par le Canada. On voit bien comme quoi, parfois, dans un pays, le changement de situation politique peut amener des modifications dans nos vies quotidiennes. On n'y pense pas toujours, surtout dans une démocratie. Reprenons. Chapitre 5, la cité de mon cœur. Sur le pont d'Aloum, je prie la haute mer. Ben, cité de mon cœur. Je pourrais ne jamais pleurer son souvenir. Ben, cité de mon cœur. Laisse-moi rejoindre cette lumière sur la place. Ben, cité de mon cœur. Et ces filles aux cheveux constellés de joyaux. Ben, cité de mon cœur. Les arches, les citrons, les fleurs de cannelle. Ben, cité de mon cœur. Ce que nous abandonnons cesse de nous appartenir. Ben, cité de mon cœur. Est-ce que cette phrase, ce que nous abandonnons cesse de nous appartenir, est-ce que quelque part, ce n'est pas une réflexion sur l'exil ?
Yes, there is a lot in the novel about exile and about homelessness. The main character Jevik is taught to read and write by a teacher who comes from Alondria, who is himself an exile, really for religious reasons, because he found himself on the wrong side of a new religion, and he had to flee the country. And so, yes, there is a lot of I think there's a lot of nostalgia in the novel, and there's a lot of love for new places, but also at the same time the feeling of loss of places is also very strong.
Oui, effectivement, dans le roman, finalement, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de l'exil. Autour du fait d'être finalement sans maison, d'être loin de chez soi. Par exemple, le professeur qui vient auprès de Jevik, donc un précepteur qui vient de Londres, est en fait un professeur qui est en exil pour des raisons religieuses, parce que finalement il n'était pas en accord avec la religion qui s'est mise en place en Londres. Il a dû fuir le pays. Et c'est vrai qu'on ressent beaucoup de nostalgie dans le roman. On ressent aussi un amour pour de nouveaux endroits. Et on ressent aussi un fort sentiment de perte par rapport au pays que l'on a quitté.
Description de Bain. Bain, la maison dorée, la cité incomparable, divise de ses dômes brillants les plages du sud en deux parties. De part et d'autre se trouvent des étendues de sable blanc immaculé, parsemées de gracieux palmiers dont les silhouettes minces ne donnent aucune ombre. Ces plages, fouettées par la pluie en hiver, vitrifiées par le soleil en été, font ressembler la côte à une fille vêtue de blanc, la couleur du deuil chez les Olondriens. Cependant, lorsqu'on arrive en vue du port, cette illusion est dissipée. La cité s'affirme, Bain, l'exubérante, la triomphante, et l'immensité de l'entrée du port, ses antiques murs de pierre et ses rangées infinies de navires cachent à la vue les plages de sable. Encore une fois, on est au chapitre 5, donc le roman est déjà bien avancé, une description. Et ce qui est très frappant dans Un étranger de Londres, c'est la place des descriptions et la place aussi du souvenir du narrateur. Là aussi, est-ce que vous n'avez pas, en redonnant sa place à la description, fait le choix délibéré, on le voit très bien, des procédés habituels de la majorité des romans de fantasy, en particulier américains ?
Certainly, I would say it's a combination of a deliberate choice, and also there's a sense in which it's involuntary. I mean, it's involuntary because this is what I love, this is how I love to write, and this is the kind of writing I love, whether it's, you know, popular or not, and whether it is common in American novels or not. But it is also a choice because for me, fantasy is about going to another world. Well, how do I go to another world? I need to sense it, and I need to have it brought to me, present to me with its colors, with its smells, with all of its atmosphere. So that is very central to me, is the creation the use of language to create an atmosphere that you can feel as if you are there.
En fait, ça a été à la fois délibéré et pas délibéré. Alors, c'était involontaire dans le sens où j'aime les descriptions, j'aime finalement décrire les endroits. C'est ce que j'aime, que ce soit populaire ou pas, que ce soit commun dans les romans américains ou pas. C'est quelque chose que j'aime et forcément, ça m'est venu comme ça. Mais il y a quand même aussi une partie délibérée dans le choix de mettre beaucoup de descriptions. Parce que je pense que la fantasy, c'est une littérature qui nous amène dans d'autres mondes. Et pour pouvoir découvrir ces mondes, il faut pouvoir les sentir. Et pour les faire sentir, il faut qu'on les amène au lecteur. Et pour les amener au lecteur, on a besoin de décrire les couleurs, les odeurs, les atmosphères, les ambiances. Et donc, c'est à travers l'usage des mots et des descriptions que l'on peut vraiment rendre vivants ces environnements pour le lecteur.
Autre passage, et on ne va pas prendre, un suivi chronologique dans le roman. On va se promener dans le roman, y compris pour vous perdre un peu et qu'on ne vous révèle pas trop de choses, évidemment. Mais aussi parce que je pense que le roman s'y prête, puisque c'est aussi, puisqu'il s'agit de souvenirs, une reconstitution de la mémoire. Nous séjournâmes de nuit à Nuilen. Pendant ce temps, l'auberge se remplit au point que, nous dit le propriétaire Pantelan, des gens installaient leurs couches jusqu'au-dessus des tables. De la fenêtre de ma chambre, je pouvais voir de petits feux allumés toute la nuit sur la place, auprès duquel dormaient des familles de paysans roulées dans leurs châles. Le soir du marché, la musique explosa soudainement dans les rues, les emplissant du roulement des tambours et de refrains joyeux chantés à tue-tête. Oram me retrouva dans ma chambre, les yeux brillants, une robe blanche pliée sur son bras. « Allons-y, Avnée Annie, » dit-il, « c'est l'heure. » Il était somptueusement vêtu d'un surcot brodé d'or, dont les ornements guindés étaient allégés par la dentelle vaporeuse qui s'échappait de ses poignets. Par-dessus la flamboyance de ce vêtement, d'un riche bronze à la lumière du feu, flottait le plat triangle blanc de son visage, couronné de ses cheveux noirs comme la mort. Il me regarda avec enchantement, comme si j'étais quelque chose qu'il avait lui-même créé, un magnifique portrait ou un bijou incrusté de gemmes. Son exaltation ne laissait place à aucune humanité. Je le voyais dans ses yeux brillants, extatiques, impitoyables, peu importait combien je souffrirais. Il ne montrerait aucune pitié. « Venez, » dit-il avec un petit rire qui glaça mon cœur, « vous devez vous changer. » Je me déshabillais en silence et enfilai la robe qu'il m'avait apportée. La soie bruissait sur mon corps, douce et froide comme une rivière de lait. Ensuite, il me fit asseoir et attacha mes cheveux avec un fil d'argent. Le miroir reflétait la lumière du feu et mon visage comme un arc incendié. Sous la fenêtre, une voix chantait « Galope, ma petite jument noire !»« Avez-vous étudié ?» me demanda Oram. « Oui. »« Avez-vous gravé les mots dans votre mémoire ?»« Oui. » Mon regard était fixé sur le petit livre écorné posé sur la table. Le livre des miséricordes par Lela Tevorona. Oram me l'avait apporté, enveloppé de vieille soie de la couleur d'une dent jaunie. « Une des rares copies que nous avons pu sauver, » avait-il dit, avant de presser le livre entre mes mains et de m'adjoindre d'apprendre par cœur ses premières pages. C'était le livre que Layla avait écrit à Léline, dans la tour où elle avait été enfermée, au jour qu'Oram appelait l'ère de l'infortune. Un manuel pour les personnes hantées. Je m'en détournai et rencontrai les yeux d'Oram dans le miroir. « Venez, » dit-il, « vous êtes prêts. » On ne donnera pas trop d'explications à ce passage parce que ce serait révéler trop de choses. Vous le découvrirez dans le roman. Mais il s'agit d'un livre important. Et dans ce roman, les livres ont beaucoup d'importance. En tout cas pour le personnage principal et le narrateur. Pourquoi avez-vous choisi, Sophia Samatar, de donner dans votre roman autant d'importance aux livres, à la transmission ? Et à la culture.
So, this is also related to the circumstances under which I wrote the novel. Because, as I said, I was in South Sudan teaching English. So I was teaching English in a place that previously my students had studied in Arabic, and now they were changing to English. But everyone also had their own cultures and their own languages other than Arabic, which were oral cultures. Now, I went to this place as somebody who loves books. I love reading and writing more than anything else in the world. But I also became uncomfortable with bringing a foreign language and bringing writing to a place of oral culture. Yes, it's necessary, but it's also an imposition.
Alors, en fait, l'importance des livres donnés donc dans ce roman est liée directement aux circonstances de son écriture. À l'époque, j'étais donc au Sud-Soudan et j'enseignais l'anglais. Et j'enseignais l'anglais, en fait, à des gens qui, auparavant, avaient étudié en arabe. Et il y avait un changement qui était en train de se faire et l'enseignement basculait vers l'anglais. Et donc chacun avait sa propre culture et qui bien souvent était une culture orale. Et moi, j'adore les livres et j'arrivais pour justement défendre les livres dans cet endroit et aussi pour enseigner l'anglais. Et je me suis sentie un petit peu mal à l'aise parce que j'apportais l'écriture à des gens qui avaient une tradition orale. Et donc, quelque part, j'allais supprimer cette tradition orale. Et donc, bien que cela me paraisse nécessaire, parce que l'écriture est très utile, je me sentais aussi un rôle un peu étrange en apportant quelque chose qui allait supprimer autre chose.
Petit extrait toujours sur les livres et leur importance. 939, trois ans après que mon maître ait quitté le Londres. Expédition infructueuse à la bibliothèque de Bain. Il n'existe aucun livre traitant des anges. J'ai compensé ma faiblesse à grands coups de café et de bœuf salé dans un bar et pris un coche qui m'a conduit à ce grand édifice aux nombreux piliers. Combien de fois n'ai-je pas parcouru ces salles en des jours plus heureux? Maintenant, je me cramponne aux rampes des escaliers qui mènent au septième étage. Ici, dans la réserve des livres rares et occultes, j'ai feuilleté de nombreux volumes consacrés à la magie ainsi que des compendiums théologiques. Parfois, je trouvais un mot ou une ligne qui semblait promettre une découverte intéressante. Brême aurait été amené à choisir cette profession sous l'influence de sa mère qui fut visitée par un ange si endurant. D'après les dires de l'ange de Bérodresse, tel que rapporté par son porte-parole Gerna, aucune machine ne sera jamais capable de s'élever dans les airs. Mais je ne découvris aucun traité, aucune argumentation, aucune explication, juste un petit livre blanc intitulé « Des joyaux dans la pierre », traité pour l'édification et l'élévation des cœurs zélés, qui répétait ce que j'avais lu dans le petit lampiste « Les anges n'existent pas, ce sont les produits d'esprits malades » et y ajoutait quelques prières destinées à restaurer l'esprit des malades. Même la biographie de Leïla Tevorova était introuvable. Je m'en suis enquis auprès du bureau du scribe au premier étage. Le scribe de service, une jeune femme aux joues extrêmement rouges, paraissant perpétuellement en colère, me regarda si froidement que je crus que ses sourcils allaient se hérisser. « Pourquoi voulais-je un tel livre ?» Je lui expliquai que j'avais entendu dire qu'il s'agissait d'un des plus grands livres jamais écrits dans la langue du Nord. « Oh » fit-elle, le porte-plume levé, « et qui vous a dit une chose pareille ?»« Je ne connais pas son nom, » répondis-je, « je l'ai rencontré au marché aux épices. » Puis je tournai les talons et la laissai là. Visiblement, dans cette société, les livres sont parfois dangereux.
Yes, absolutely. I think it is a fact that language is power, and written language has a particular power. It has a power of duration, a power of persistence over time, and so this power also makes it vulnerable to all kinds of erasure. So as much as we create history and we record important cultural moments, we can also go back and erase it. And books can be burned, books can be lost, they can disappear. And so sometimes we think they are more permanent than they are. And sometimes one of the powers of language is a power of absence, in that things can be made to disappear as if they had never existed.
Alors, c'est un fait que le langage représente un certain pouvoir. la chose écrite a le pouvoir de durer. Elle peut perdurer dans le temps, mais en même temps, l'écrit peut être aussi vulnérable puisque il peut être effacé. On pense que une civilisation qui a construit toute une culture écrite, c'est un progrès et que ce progrès est acquis, mais en fait, il peut y avoir des retours en arrière puisque on peut brûler des livres, on peut les perdre, on peut les faire disparaître. Et nous avons souvent tendance à penser que le livre est beaucoup plus permanent qu'il ne l'est en réalité. Et donc ce pouvoir du langage, il peut être aussi, il peut représenter aussi une certaine force par son absence.
Autre extrait, cette fois-ci, c'est l'aspect religieux, persécution religieuse, intolérance qui s'exprime. Mais évidemment, là encore, l'extrait que je vous lirai ne vous permettra pas de découvrir un petit peu tous les mystères de ce livre qui seront levés les uns après les autres, mais de façon, vous l'avez senti, progressive, prudente, subtile, avec des retours en arrière. Toute la richesse de ce roman qui traduit une vie, qui traduit des voyages et qui traduit aussi un véritable voyage initiatique pour le héros et puis, vous verrez, pour le lecteur. La grande prêtresse d'Avaleil était prisonnière sur l'île Bénie et n'avait plus posé un pied sur le continent depuis une décennie. Néanmoins, elle maintenait un salon digne de ce nom, voire même somptueux, où elle divertissait les familles nobles qui soutenaient toujours son culte déclinant. Elle offrait des sacrifices à la déesse sur une des collines de l'île et on l'avait autorisée à utiliser une des salles de bal de la Tour des Miroirs les jours de fête. Son châle était d'une soie si rare qu'il semblait lourd comme une chose vivante. Quand je le pressais sur mes lèvres, il avait un goût de mûr. « Asseyez-vous, » dit-elle. Je me perdis dans les tissus jaunes du fauteuil qu'elle me désigna. Il m'était difficile de soutenir son regard intelligent et faussement lascif. Elle dit d'une voix lente et liquide, chaque mot ressemblant à un caillou lancé dans un étang, « Vous êtes en sécurité ici, mon enfant. N'ayez pas peur, que quelqu'un lui serve à boire. » Une jeune fille maussade se détacha de la forêt décorative et déposa un objet de verre filigrané d'argent dans mes mains. « Merci, » dis-je, le tenant avec précaution. Avec son ventre rond et ses quatre pieds, il ressemblait plus à une lampe. De nombreux autres verres semblables, d'où dépassaient des chalumeaux de verre courbé, traînaient sur la table basse à l'intérieur du cercle des invités. « Avez-vous déjà goûté au los ?» demanda la grande prêtresse. Je secouai la tête. « Vous avez beaucoup de chance. Vous allez y goûter pour la première fois. Tel est le privilège de la jeunesse. » La religion, les oppositions religieuses, les conflits religieux et la façon dont les croyances religieuses et les conflits religieux sont utilisés par certaines puissances et par certains intérêts jouent un rôle, même s'il n'est pas au cœur, mais jouent un rôle important dans votre roman. Est-ce que c'est aussi une réflexion sur la façon dont le conflit au Soudan, au Sud-Soudan, a pu vous marquer, puisque vous avez travaillé dans ce pays ?
Yes, definitely, it's related. One of the ways it's related is in the way that religion is mobilized in the service of conflicts that really are not about religion. They're really about who is going to have control of power, of resources. So, for example, in Sudan, the way people would talk about the war, and I was there during the civil war before Sudan South Sudan was an independent country. When people talked about the war, they talked about it as a religious war between a Muslim north and a Christian and a traditional African south. But really, it was a war over resources. It was a war over water. It was a war over oil. And so in the novel also, there is this religious conflict where religion is used simply to motivate the people and to mobilize people for either side. But really, it's an issue of political power.
Alors oui, effectivement, c'est absolument en relation avec ma propre expérience au Sud-Soudan. En effet, parce que c'est la façon dont la religion était utilisée pour mobiliser des gens donc autour d'un conflit soi-disant religieux, mais qui, en réalité, derrière, concernait plutôt le contrôle du pouvoir et des ressources. Donc j'étais présente au Sud-Soudan en plein milieu de la guerre civile qui a eu lieu. Et lorsque les gens parlaient de la guerre, ils parlaient en fait d'une guerre de religion entre un nord qui était donc musulman et le Sud-Soudan qui était chrétien et qui était également, où il y avait également des gens qui croyaient à toutes les anciennes religions traditionnelles. Et donc, ils présentaient ça comme une guerre de religion, alors qu'en réalité, si on creusait derrière, c'était simplement une guerre pour le contrôle des ressources, de l'eau, du pétrole, et une guerre pour le contrôle du pouvoir. Mais on essayait de mobiliser les gens dans chacun des camps derrière des idées religieuses, alors qu'en réalité, le conflit était vraiment politique.
Autre extrait. Et là, à nouveau, des descriptions, un paysage un peu difficile, pas très accueillant, et pourtant, vous verrez. Finalement, après des jours de froid extrême et d'épreuves, nous fûmes récompensés. Une porte s'ouvrit dans le paysage, révélant ses merveilles. Au sommet d'une colline rocheuse, soudainement, un nouveau monde s'offrait à nous. Un flamboiement doré, une désolation profonde et lugubre. Le Kenstania, sauvage et solitaire, s'étirant au pied des montagnes, ce grand plateau menant à l'endroit où naissent les dragons. Quelques lignes disparates le striaient. Une ligne brisée, suggérant des collines, le lit d'une rivière asséchée, semblable à l'ombre d'un poignet. C'était le pays des éléphants, des fidèles poneys du désert, à la crinière de soie. Les loups rôdaient chaque hiver à ses confins. Un paysage fait pour pleurer les hommes, écrivait Firdred de Bain, quand il le vit pour la première fois, épousant la forme exacte d'une mer profanée. Je restais debout à le contempler, oubliant le vent. Miros, aussi pâle que la farine, roula sur le côté et par-dessus la crête, le contempla avec moi. Comment un homme eut-il jamais le courage de pénétrer une contrée aussi menaçante et abandonnée, écrit encore Firdred, reste un mystère. La contemplation du désert, depuis le col, avait le même pouvoir hypnotique qu'une nuit sans lune et sans nuages, resplendissant d'étoiles. Elle provoquait la même avidité visuelle, ce sentiment que jamais, peu importe le temps passé à la contempler, cette image ne demeurait intacte dans l'esprit. Elle était trop vaste, mystique, impénétrable. Et pourtant, ainsi que l'écrivit un tel Khan, elle n'était que néant. Que Sarma me pardonne, nous dit Nulas le sage, d'avoir envoyé couler le sang de nos fils dans cette contrée horrible et sauvage, cet oblitérant vide oriental. Peut-être est-ce pour cela qu'ébloui, j'avais le sentiment que je ne pourrais jamais contenir cette vision immense. Parce qu'elle n'était que néant, pur néant, une platitude monotone, dorée, striée d'écarlate, de la couleur, note Firdred, de l'ongle d'un doigt. Au nord, la chaîne de collines continue à s'étendre, et je vis au loin la cité d'Uramakir, dramatiquement perchée sur un précipice dominant les sables. Et alors que je restais à fixer ces hauts murs sévères, le vent se mit à gémir et un diamant brûla mon visage. C'était un flocon de neige. Paysage difficile, paysage menaçant, paysage perçu par certains voyageurs comme hostile, et pourtant, pour reprendre le titre d'un roman d'un écrivain français, est-ce que vous ne décrivez pas là, Sophia Samatar, tout simplement, la beauté du monde ?
Yes, absolutely. I think there is a kind of beauty we might describe as sublime, which has an element of awe. We can have an element of shock when we're face to face with it, and I think that this is a characteristic of the world, and it's something that can be lost through, you know, daily life and daily interactions with the world. And it's one of the reasons that we go to literature, we go to books, we go to art, and we go to fantasy to give us back the world in a kind of a strange mirror that is going to unveil again that sublime quality that we have trouble perceiving.
Oui, absolument. C'est une façon, effectivement, de décrire la beauté du monde. Le monde peut être vraiment beau, peut être sublime, et il peut être aussi beau et sublime lorsqu'on est en état de choc devant un paysage absolument hallucinant, ou lorsqu'on est étonné par un paysage que l'on découvre. Mais ce sont les caractéristiques du monde, et c'est vrai que parfois, ces caractéristiques, cette beauté du monde, on peut la perdre quand on côtoie un paysage au quotidien et qu'on finit par ne plus le voir. Et donc, pour retrouver un petit peu ce sens de l'émerveillement et de l'étonnement, eh bien, on peut le retrouver dans les livres, dans l'art, dans la fantaisie, qui finalement vont nous redonner le monde, l'image du monde, dans son étrangeté et dans sa richesse.
Je me rappelle les premières pages, le premier chapitre de votre personnage qui est un marchand. Ou plutôt le fils d'un marchand, mais qui a pour vocation de devenir lui-même marchand, et qui va partir, même s'il a envie de visiter Bain et ses bibliothèques. Ses motivations, on le verra par la suite, ne sont pas uniquement commerciales, mais néanmoins, il va là-bas pour acheter du poivre et pour faire des affaires. Et finalement, votre héros, votre marchand, votre fils de marchand, il va peut-être illustrer cette réflexion. Nous trouvons rarement ce que nous cherchons, et nous cherchons rarement ce que nous trouvons. Est-ce que ce n'est pas tout le problème de Jarvik ?
Yeah, that's great. I like that. Yes. This is also, I mean, you know, it's strange to have a fantasy that's really so real in so many ways. But this fantasy is very much an expression of reality, I think, a kind of slanted version of reality where, you know, why did I go to Sudan? I don't know. I went there to teach because people were looking for English teachers and I thought it was a good thing to do. And my experience when I went there was completely, you know, there was no way that I could predict before I went there the kind of experience that I would have. The experience of, for example, working with students who had been child soldiers and who had missing limbs, or the experience of, you know, attending different kinds of occasions, like for the birth of a newborn child, where I was completely confused by what everybody was doing, and the very different ways of celebration. And I feel that the moments that I took from that experience are very, very different from what I expected. Maybe for Jevic, it becomes a problem. It becomes his difficulty, and he gets into a kind of a religious conflict. But for me, it was a very powerful, difficult but beautiful experience, and it is for him too.
Alors, effectivement, j'adore la citation que vous venez de faire. Et c'est vrai que, quelque part, elle peut aussi s'appliquer à moi. Parce que finalement, quand je regarde dans mon histoire personnelle, pourquoi est-ce que je suis allée au Soudan ? J'y étais allée parce que je voulais enseigner l'anglais. Et je pensais que ce serait une expérience intéressante, que j'allais apporter quelque chose. Et finalement, une fois sur place, je me suis retrouvée dans un environnement complètement différent de ce que je m'attendais à trouver. Il a fallu que je travaille avec des enfants qui avaient été des enfants soldats, avec des enfants qui avaient été mutilés par la guerre, à qui il manquait des membres. J'ai vécu des moments complètement étranges, par exemple, en participant à la naissance d'un enfant, où là, je me suis trouvée un peu démunie et un peu surprise par tout ce que les gens faisaient à l'occasion de cette naissance et par le côté un peu étrange des célébrations qui ont été tenues à ce moment-là. Et effectivement, tout ça, c'était à la fois inattendu, difficile à vivre, mais extrêmement enrichissant. Et je pense que Djevik va un petit peu avoir subir les mêmes choses, c'est-à-dire qu'il va se retrouver à travers des expériences difficiles, mais comme pour moi, elles vont être puissantes, mais enrichissantes pour lui.
On arrive à la fin de ce café littéraire, de cette rencontre avec Sophia Samatar. Vous avez remarqué que je me suis attribué moi-même cette rencontre. C'est parce que tout simplement son livre m'a profondément enthousiasmé et touché, que je tenais absolument à essayer modestement d'en rendre compte et peut-être de vous donner envie, en tout cas j'espère que j'y suis parvenu, de le découvrir, de le lire et donc d'aller vous précipiter pour l'acheter, lui faire signer. Je cherchais un mot, une formule pour terminer cet entretien et comme je n'ai pas trouvé mieux que ce qu'avait écrit Nicolas Winter, je conclurai donc cette rencontre avec Sophia Samatar sur une formule de ce critique de Bifrost que je trouve absolument adaptée. Un étranger en nos Londres se révèle un trésor d'intelligence, de beauté, de subtilité et oui, osons le mot, une fois encore, de romantisme. Le genre de fantaisie rare et précieuse qui confère au genre ses lettres de noblesse. Sophia Samatar, vous êtes une auteure rare et précieuse et nous espérons vous revoir dans les années à venir. Merci à vous.
Merci.